première invitée des matins du samedi, une personnalité au visage multiple qui est à la fois une passeuse de savoir et une tisseuse de liens. C'est en tout cas en ces termes que le président du CNRS, Antoine Petit, l'a présenté jeudi soir lors de la cérémonie organisée en Sorbonne pour lui remettre la plus haute distinction de la recherche française, la médaille d'or du CNRS. Chère Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue et merci d'être avec nous ce matin si tôt. Vous êtes philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque et amoureuse des mots. C'est une belle présentation qu'il a faite de vous, Antoine Petit, en disant « passeuse de savoir et tisseuse de liens ». C'est juste comme présentation ?
Oh, j'espère. En tout cas, c'est ce que j'aimerais être.
Vous avez dit lors de cette cérémonie en Sorbonne jeudi soir, on a vu un petit extrait d'un film où vous parliez, Barbara Cassin, et vous avez dit qu'en fait votre prénom était un prénom choisi. Qu'est-ce qui veut dire Barbara ? Pourquoi l'avez-vous choisi ?
Je m'appelle Laure Sylvie Barbara, c'est les prénoms que m'ont donné mes parents, et puis à un certain moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi Barbara. Et Barbara, ça veut dire blablabla, tout simplement. C'est comme berbère, comme Babel, comme c'est Barbaros, le mot grec qui dit. Alors c'est une onomatopée, Baobaos, c'est ce qu'on comprend pas. C'est le langage de l'autre quand on ne le comprend pas. Et du coup, les barbares, on n'est pas tout à fait sûr que ça soit des hommes. En tout cas, c'est pas des hommes comme nous. Donc, ça m'intéresse d'être du côté des barbares.
Médaille d'or du CNRS pour vos recherches, en particulier sur la philologie et la philosophie grecque. En mai, vous aviez été élue déjà à l'Académie française. Quelle année, Barbara Cassin ? Quelle année 2018 ? Alors, on ne vous connaissait pas ce goût des honneurs. J'aimerais bien savoir comment la non-académique que vous êtes vit toute cette reconnaissance institutionnelle.
Je me foule les doigts, par exemple. J'arrive avec une main gonflée. Je ne sais pas. Je suis la première étonnée.
Heureuse.
Très heureuse. Je ne suis pas étonnée, si vous voulez, de la récompense du CNRS. Enfin, elle ne m'est pas attribuée à moi. Elle est attribuée à un énorme travail qu'on a fait à 150, le dictionnaire des intraduisibles, et qui n'aurait pas été possible sans le CNRS. Donc, si vous voulez, au fond, le CNRS s'attribue une médaille, c'est très bien. Bon. Il s'attribue une médaille à travers moi. Mais une médaille vraiment à 150. Et puis, plus qu'à 150, parce que ce livre incroyable, qui donc travaille sur les symptômes de différence des langues en philosophie, en l'occurrence.
Un livre qui a presque 15 ans, hein, cette année. Il est sorti vers 2004.
Oui, c'est ça. On a fêté ses 10 ans, il n'y a pas très longtemps.
C'est ça.
Oui. Et donc, ce livre est maintenant en cours de traduction, c'est-à-dire de réinvention, ce qui est complètement fou. Déjà, c'est un livre fou. Alors là, c'est deux fois fou. Et dans beaucoup de langues. Donc, il y a des entrées nouvelles. Il y a une intention nouvelle à chaque fois. Que veut la langue dans laquelle c'est traduit? Que veut le pays? Pourquoi fait-on un travail comme ça dans ce pays? Et c'est pas les mêmes raisons qui m'ont conduite, moi, à faire ce travail dans un certain moment de l'Europe de la culture. Donc, vous voyez... disons que la médaille d'or du CNRS, elle m'enchante, mais elle ne me surprend pas vraiment. En revanche, l'Académie française, c'était une beaucoup plus grande surprise, parce que ça n'est pas vraiment mon monde.
Et alors, vous êtes heureuse d'être dans un monde
heureuse,
qui n'est pas le vôtre aujourd'hui ?
Très heureuse.
Ça fait quelques mois maintenant que vous avez commencé vos travaux.
Non, j'ai pas commencé.
Encore... Ah, c'est pour ça que vous n'avez pas fait encore votre discours de réception.
Non, ça sera en octobre.
Donc, vous n'avez pas commencé à travailler.
Non.
Est-ce que vous avez commencé à fréquenter vos pairs académiciens ?
Un petit peu. Vous savez, il est tradition de faire quelques visites d'essayer
de candidater,
voilà,
on peut
avant
dire.
De candidater.
Il faut émettre le souhait d'y aller et donc effectivement faire acte de candidature.
Voilà. Et bon, j'ai émis le souhait d'y aller parce qu'on me l'a suggéré. Marc Fumaroli me l'a suggéré avec beaucoup de d'insistance et de gentillesse. Et donc ça s'est fait très facilement, mais j'ai quand même fait quelques visites et les gens que j'ai rencontrés je ne les ai pas du tout trouvés académiques. Ce sont des vrais académiciens, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des choses à dire par rapport à notre langue française et au monde dans lequel on vit. Ça n'a rien de passéiste, si vous voulez.
Mais j'ose espérer que justement il y a une pluralité qui s'exprime au sein de cette Académie française et notamment en termes de réflexion sur la langue, parce que par exemple l'Académie française est censée penser, accompagner l'usage en normant la langue.
Oui.
doit aujourd'hui donner une place au genre féminin dans la langue française, par exemple. Et je suppose que tout le monde ne pense pas pareil au sein de cette académie. Vous, Barbara Cassin, que pensez-vous pouvoir apporter en termes justement de, d'évolution de la langue française quant au genre féminin ?
Parce qu'il y a beaucoup de débats. Quant au genre féminin, Madame le ministre est enceinte, c'est le livre de Cerchilini. Bon, on dit Madame le secrétaire perpétuel. Et ça, c'est une norme de l'Académie française, mais une norme, disons, de l'histoire de la langue française.
Les normes ne sont-elles pas faites pour être changées ?
Si, d'ailleurs,
à moins qu'elles vous plaisent.
Elles sont faites pour évoluer. Celle-là, c'est assez. Moi, je trouve ça très beau, Madame le secrétaire perpétuel. Quand j'ai commencé mon discours de remerciement, de remerciement pour la médaille d'or, j'ai dit avec assez de fermeté, Madame le ministre. Mais parce que aussi, ça me fait rire. Ça n'est pas sans clin d'œil. Et je trouve que la langue permet ce genre de clin d'œil. Et j'ai continué par cher E-S.
Oui. Amis.
Voilà. Et c'est non moins drôle. Évidemment, l'Académie française refuse l'écriture inclusive. Mais si vous voulez, le fait que je puisse parler comme ça, cher E-S, ça me met en. Je trouve que ça dit bien ce qu'est l'écriture inclusive, c'est-à-dire une très très bonne intention et quelque chose d'invivable en la prononçant et en l'écrivant. À mon avis, je partage assez ce que dit l'Académie. Elle dit bon, comment allez-vous faire ? C'est catastrophique. Bon, et c'est vrai. Simplement, ça dit quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement juste sur le rapport entre masculin et féminin dans la langue française et dans beaucoup de langues.
De la même façon, peut-être, Barbara Cassin, que votre nomination dit quelque chose de l'évolution de cette place qu'on peut faire au féminin dans les grandes institutions. Vous êtes la 5e femme, alors en 60 ans, une médaille d'or à peu près, mais la 3e en 5 ans. Donc voilà. Ça montre que les choses s'accélèrent. Et puis déjà, avec votre élection à l'Académie française en mai, vous êtes aujourd'hui la 5e à y siéger, la 9e femme à y entrer. Vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide de votre côté ?
Ah ben, je le vois se remplir.
C'est donc plutôt une bonne chose.
Oui.
Dites-nous, Barbara Cassin, comment on devient philologue ?
Alors, avec beaucoup, beaucoup de travail. C'est d'abord ça, beaucoup de temps. La philologie, c'est le travail sur les textes, dans leurs lettres, dans la lettre de leur transmission, et en particulier en grec, si vous voulez. Moi, je me suis occupée de textes qui étaient très, très mal connus, d'une part, et très mal édités, c'est-à-dire qu'ils avaient été terriblement corrigés parce qu'on ne voulait pas, surtout, on ne voulait pas les comprendre vraiment. Les textes des sophistes, ceux dont je me suis occupée...
Vous les aimez bien, ces sophistes, qui étaient des orateurs dans l'Antiquité
c'était
grecque,
plus que des
professeurs d'éloquence.
Oui, c'était tout ça.
Plus que ça aussi.
Beaucoup plus. Hegel les appelle les maîtres de la Grèce. Et sur le plan du politique... Et sur le plan de la culture.
Et pourtant, ils étaient décriés, en particulier dans l'histoire de la philosophie,
absolument.
Évidemment, par les grands penseurs classiques, Platon en premier.
Platon, Aristote.
Qui ne les aimait pas du tout parce qu'ils trouvaient qu'ils séduisaient.
C'était des démagogues. Et ils ne se préoccupaient pas de la vérité avec un grand V. Ce qui est tout à fait vrai. Protagoras, l'un des grands sophistes, dit cette phrase absolument magnifique. L'homme est la mesure de toutes choses. De celles qui sont, qu'elles sont, de celles qui ne sont pas, etc. On peut continuer. Mais cette phrase-là, c'est un appel au jugement critique. L'homme est la mesure de toutes choses. Allez-y. Et toi, dit-il, conclut-il, toi, il te faut supporter d'être mesure. Et cette phrase qui est mise dans sa bouche, est mise dans sa bouche par Socrate, dans le Théétète de Platon. Donc, si vous voulez, ils étaient à la fois complètement décriés, marginalisés, et puis compris par quelqu'un comme Platon. Et la plus belle apologie, les plus beaux compliments sur Protagoras sont dans la bouche de Socrate, avec cette phrase « Et toi, il te faut supporter d'être mesure ». Eh bien moi, je trouve que c'est une phrase de parfaite actualité.
Donc c'est en étudiant les textes grecs que vous êtes devenu à la fois philosophe spécialiste de la Grèce antique et philologue, Barbara Cassin.
Oui, absolument.
C'est en croisant, en entremêlant les deux. Et la traduction, votre intérêt pour la traduction vient aussi de là. J'ai lu que votre père faisait des kilomètres avec sa petite voiture pour trouver différentes traductions d'un texte et que quand vous étudiez le grec ancien, que vous y passiez des soirées tous les deux à traduire des textes.
Oui, c'était magnifique. C'est-à-dire que ce que j'ai appris avec lui, d'abord... j'ai appris l'amour de cette langue, hein, qui est une langue dont on, quand on la travaille, on se rend compte qu'elle est vraiment radicalement autre que le français, par exemple, ou que nos langues contemporaines, que beaucoup de nos langues contemporaines. C'est-à-dire que un mot comme logos, qui veut dire quoi ? Je disais tout à l'heure barbare. Hein. Barbare, c'est ceux qui n'ont pas le logos grec. Mais logos, ça veut dire, les latins l'ont traduit par raison, ratio, et oratio, et discours. Bon, vous voyez déjà l'ampleur du terme. Mais ça peut vouloir dire mot, ça peut vouloir dire démonstration, ça peut vouloir dire argumentation. Bon, et voilà, voilà que ce mot-là, bon, il décrit vraiment ce qu'est, de l'intérieur, ce qu'est quelque chose comme la langue grecque, c'est-à-dire une prétention à l'universel et une prétention, si on veut, en un sens justifiée, dans la mesure où chaque terme a une amplitude extrême et en même temps renvoie à quelque chose de très, très précis. Logos, ça veut dire A sur B égale C sur D. Donc, mise en rapport, relation, proportion. Donc, vous voyez, ça, ça peut donner aussi bien discours structuré que raison. C'est génial.
Et c'est génial. Barbara Cassin, d'ailleurs, à vous écouter, on entend à quel point vous aimez encore la langue, vous aimez jouer avec les mots. On va venir d'ailleurs à ce langage performatif auquel vous vous êtes intéressé avec votre dernier ouvrage. Mais avant cela, j'aimerais vous lire un extrait de la préface d'un ouvrage de Geneviève Brézac qui vient de paraître aux éditions Point, Mes mots sauvages, dans lequel elle fait une énumération des mots qu'elle aime. Et elle a écrit une préface qu'elle a traduite d'ailleurs. Le texte d'une intervention radiophonique prononcée par Virginia Woolf à la BBC en 1937, qu'a traduit donc Geneviève Brézac, et je vous en lis un extrait. Les mots. Ils détestent être utiles, ils détestent gagner de l'argent, ils détestent qu'on discute d'eux en public. Bref, ils détestent tout ce qui les enferme dans une seule définition ou les limite à une seule attitude, car il est dans leur nature de changer. Peut-être est-ce leur caractéristique la plus frappante, ce besoin de changement, c'est que la vérité qu'ils essaient de capter est si complexe qu'ils ne peuvent la transmettre qu'en étant eux-mêmes complexes, en papillonnant ici ou là. Vous aimez cette façon de parler des mots sauvages à la Virginia Woolf,
Barbara Cassin ? Oui, beaucoup. Pour moi, la sauvagerie des mots, c'est dit là, mais si vous voulez, si j'essaye de le dire philosophiquement et non plus en romancière, je dirais la sauvagerie des mots, c'est qu'ils sont équivoques. Et c'est autour de ça que travaille le dictionnaire des intraduisibles, autour des différentes équivoques qui caractérisent différemment justement chaque langue.
Le fait qu'il n'y ait pas des mots qui sont intraduisibles au sens où on ne peut pas les traduire, mais qu'on peut sans cesse les traduire.
Sans cesse les traduire, c'est-à-dire les remettre autrement en situation. Quand je dis sens en français, je peux vouloir dire signification, je peux vouloir dire sensation, je peux vouloir dire direction. Eh bien, voilà. Et cela est constitutif du sens du mot sens en français. Et si vous passez à l'anglais, ben, il y a meaning, sensation. Passons à Virginia Woolf. Il y a au moins trois mots. Meaning, sensation et direction. Bon. Eh bien, voilà. L'équivoque d'une langue, les équivoques d'une langue, c'est au fond sa carte d'identité. C'est magnifique quand on se met à l'explorer de cette manière-là. Et c'est ça que nous faisons en philosophie, dans le dictionnaire des intraduisibles.
Et que vous poursuivez d'une façon un peu différente, un peu divergente, avec « Quand dire, c'est vraiment faire », le dernier ouvrage que vous avez signé, Barbara Cassin, un livre sur la force du discours performatif. En gros, qu'est-ce qui se passe quand on dit « je mange » ou quand, au hasard, 7h23 du matin, ou quand je dis « la séance est ouverte ». Et c'est une phrase qui résume assez bien votre ouvrage, celle de Desmond Tutu. Alors vous avez participé à la commission Réconciliation et Vérité. Vérité et Réconciliation, pardon, en Afrique du Sud, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Il a dit cette phrase que vous reprenez et qui montre bien ce que vous voulez dire, me semble-t-il. « On pense, a dit Desmond Tutu, que le langage dit la réalité ». Non, il construit la réalité, oui. Il l'a fait.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire, en l'occurrence, cette phrase, elle est dans la préface du rapport à la commission Vérité et Réconciliation. Et ça voulait dire, en l'occurrence, que c'était avec des mots, avec cette commission, qui est une commission de parole, que allait se construire, et que s'est construit effectivement, the Rainbow Nation, le peuple arc-en-ciel. Et que ce partage de paroles antagoniste, puisqu'il y avait à la fois les victimes et les bourreaux, que ce partage de paroles faisait le socle de ce qui allait devenir une seule nation, arc-en-ciel, donc de toutes les couleurs. Sauf que, comme on disait de manière un peu méchante et malicieuse à ce moment-là, le noir, vous avez vu ça dans l'arc-en-ciel, vous ? Et le blanc, ce n'est pas une couleur non plus. Bon. Donc, voilà, l'arc-en-ciel du peuple arc-en-ciel était plus ou moins réel. Mais il l'était par rapport à l'apartheid, évidemment. Il était avec une force et une beauté extraordinaires. Donc, il s'agissait, avec cet entrecroissement de discours, de faire, de constituer, comme disait Desmond Tutu, non pas la vérité, mais assez de vérité pour fabriquer ce peuple arc-en-ciel. Ça, c'est magnifique aussi. Vous voyez, on retrouve Protagoras dont nous parlions. Bon, non pas la vérité avec un grand V, mais cette vérité qu'il nous faut pour.
Ce qui est compliqué aujourd'hui.
Oui,
ça l'a toujours été. Si on considère que la première dimension quand même du langage, c'est de dire ce qui est, de dire ce qu'on voit quand je me tourne vers la fenêtre et que je dis « il pleut », bon en l'occurrence il ne pleut pas, mais
bah, vous dites « pleut ». Ah, c'est très bien.
Est-ce que c'est vrai ou faux ? Voilà, exactement. Quel est le rapport, Barbara Cassin, entre le performatif et la vérité aujourd'hui ?
Justement, aujourd'hui comme toujours.
Quand comme toujours peut-être, oui. Hein, mais aujourd'hui le régime de vérité est un peu plus mis en cause partout.
Voilà, eh bien bon, le constatif, il pleut. Cette table-là et ce micro est violet. Bon, c'est vrai ou c'est faux ? Il est violet ou il ne l'est pas ? En l'occurrence, il l'est. Donc, c'est vrai. Bon, il y a une conformité. En revanche, si moi, maintenant, je vous dis « la séance est ouverte », ça n'est ni vrai ni faux, c'est juste inopérant. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas le juge en train de déclarer que la séance est ouverte et de l'ouvrir. Ou bien, si je vous dis « je vous déclare unie par les liens du mariage », vous allez me rire au nez. Mais si je suis le maire et que vous êtes en train de vous marier, c'est vrai, ça devient vrai. Bon, ou « je te baptise », c'est connu depuis toujours. C'est le discours, on va dire, des sacrements. Bon, « je te baptise », quand c'est le bon curé au bon moment qui vous le dit, ben c'est vrai. Enfin, qu'il dit à votre enfant, c'est vrai. Bon, donc voilà, là, c'est... comme dit Austin, heureux ou malheureux.
Oui, parce que Austin a été celui qui a écrit « Quand dire, c'est faire ». Oui. Votre ouvrage le reprend, en fait, c'est une référence, puisque vous l'avez intitulé « Quand dire, c'est vraiment faire ».
Voilà, absolument.
Alors, quand est-ce que c'est vraiment faire, Barbara Cassin ?
Eh bien, je trouve que pour moi, la commission Vérité et Réconciliation est un bon exemple du vraiment faire en politique. C'est vraiment ce que les mots peuvent faire, ce qu'ils ont réussi effectivement à faire.
Vous distinguez d'ailleurs trois âges du performatif.
Oui.
Il y a des moments où ça a été sans doute un peu moins efficace ou efficient qu'à d'autres moments.
Oui.
Aujourd'hui, on est dans un âge, je ne sais pas comment le qualifier, peut-être un troisième ou un quatrième âge, mais si on prend juste un exemple d'actualité, puisqu'en plus on est à la veille de la COP24 et qu'il est beaucoup question d'environnement, et que vous faites des courts-circuits entre l'antique et le contemporain, alors allons-y, oui. Jetons-nous, si vous le voulez bien. Mais est-ce que vous diriez que sur l'environnement, par exemple, le discours n'est pas assez performatif.
Ça marche pas du tout, mais je veux dire, c'est même pas performatif. Le performatif suffit pas à tout faire. Il peut pas, d'un coup de baguette magique, transformer le monde. Ben, en revanche, il peut... là aussi, il doit y avoir des conditions. Bon, je trouve que, par exemple, on va prendre un exemple plus petit, mais de même ordre. Je trouve que la France a arrêté de fumer très vite, par exemple. La France a arrêté de fumer, en gros.
Pas encore assez, hein.
Peut-être pas encore assez, mais enfin, bon. Eh bien, ça, c'est moi. Je sais que j'ai arrêté de fumer quand mes enfants m'ont dit :« Mais enfin, tu fumes ? Pas possible. » Bon, ça, c'était un discours un peu performatif, c'est-à-dire que tu ne peux pas fumer, tu ne fumes pas. Ça y est, tu ne fumes plus. Bon, bah, ça a marché. Et ça a marché beaucoup mieux. Enfin, en fait, j'étais pas une vraie grande fumeuse, mais bon, c'est devenu impossible quand on me l'a dit. Et bien, je crois que si bon, c'est un peu pareil là. Mon fils ne supporte pas qu'on achète des bouteilles d'eau minérale en bouteille. Il me dit mais enfin, c'est quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Bon. Et d'une certaine manière, sa manière de me le dire est performante,
performative. C'est presque un impératif, là. Ça rejoint un impératif.
Ça rejoint un impératif.
Ne fume pas, n'achète pas de bouteille d'eau, non ?
Oui.
Voilà, c'est la linguistique, plutôt. Mais
oui, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que là, c'est le moment... Mais vous voyez, c'est un passage très, très subtil. Pour moi, l'exemple clé du performatif tel qu'il a été mis en œuvre récemment, c'est « Yes, we can ». Yes Weekend, c'est pas un performatif, jusqu'à ce que ça le soit. C'est-à-dire que jusqu'à réellement, oui, l'Amérique a pu. Puis maintenant, qu'est-ce qu'elle peut ?
Alors là, vous êtes obligé de me dire, arrêtez-vous, parce qu'il est 7h30, Caroline Brouet, et qu'à 7h30 sur France Culture, le samedi matin, c'est l'heure des titres de l'actualité. À tout de suite, Barbara Cassin. Barbara Cassin est avec nous ce matin, et je le remercie. Barbara Cassin, nous nous sommes quittés juste il y a 3 minutes sur ce Yes Weekend et sur la force du discours performatif, sur ce que peuvent les mots, ce sur quoi vous travaillez depuis longtemps maintenant, et ce pourquoi vous avez été récompensé, notamment par la médaille d'or du CNRS, vous et votre équipe de recherche, il y a 2 jours maintenant, puisque c'était la cérémonie de remise de la médaille d'or. Qu'en dire, c'est vraiment faire, c'est le titre de votre dernier ouvrage. On se quittez donc sur ce Yes Weekend. Est-ce que Make America Great Again de Donald Trump, dont il était question dans les titres d'actualité, ou en France En Marche, ce serait performatif?
Oui, c'est possible. En fait, comment est-ce qu'on le sait? Si c'est réel.
Si ça marche vraiment, ouais. D'une certaine façon.
Oui. Donc la vérité, là, quand même, elle est une vérité d'après-coup. Quand on élargit la notion de performatif, si vous voulez, le performatif tel qu'il a été pensé par Austin, celui qui l'a décrété comme tel et inventé le mot, c'est une pointe d'épingle. Hein. C'est vraiment « je te baptise », c'est la séance est ouverte, ou toutes petites incidentes qui marchent ou qui ne marchent pas, et on le sait tout de suite.
Mais ça voudrait dire effectivement, et vous qui considérez que la langue est politique, qu'on manque en politique aujourd'hui de discours de cette force-là ou de cette nature-là?
Il me semble que c'est un tout petit peu plus compliqué.
Bien évidemment.
Oui. Je pense qu'il y a des choses qui se présentent comme des performatifs qui en fait n'en sont pas parce que la réalité ne se transforme pas, elle n'est pas au rendez-vous. Ils ne suffisent pas pour transformer le réel. Bon. Alors que, dans certaines circonstances, la séance est ouverte suffit pour transformer le réel, pour que la séance le soit. Bon. En Marche, d'une certaine manière, a été performatif puisque Macron a été élu. Ça s'est fait. Quelque chose de cet ordre a conquis le réel. Macron a été élu, un parti, si on peut appeler ça un parti, s'est constitué autour de ces mots. EM.
Dans tous les sens d'ailleurs.
Dans tous les sens.
Il y a le performatif, et puis il y a d'ailleurs ce pourquoi vous avez donc été récompensé par la médaille d'or du CNRS, la traduction ou les intraduisibles, et cette très vaste entreprise qui a été la vôtre du vocabulaire européen des philosophies et du dictionnaire des intraduisibles. Vous pensez donc que la langue est politique. Or, nous sommes à quelques mois d'élections européennes dont l'enjeu paraît historique. Vous pensez d'ailleurs, comme Umberto Eco, que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Alors, est-ce que de la même façon, nous manquons de traduction, nous manquons de traducteurs? Est-ce que refaire l'Europe passerait aujourd'hui pour vous par le développement de cette traduction, par l'apprentissage d'un entre, c'est-à-dire des langues étrangères?
Oui, enfin moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est dans la traduction, c'est que c'est un savoir-faire avec les différences. C'est-à-dire qu'au lieu de les gommer, elle s'installe dedans et elle essaye de les faire communiquer. Donc ce que j'appelle intraduisible, ça n'est vraiment pas ce qu'on ne traduit pas, oui. Puisqu'on n'arrête pas de
c'est
tout traduire.
C'est ce qu'on ne cesse de traduire.
C'est ce qu'on ne cesse de traduire. Et donc on ne cesse de mesurer les écarts et de travailler dedans. Et d'arriver à les faire passer l'un dans l'autre. Donc c'est ça qui m'intéresse dans la traduction. Donc quand Umberto Eco dit la langue de l'Europe, c'est la traduction, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des interprètes partout. Ce n'est pas tellement ça le problème. Et pas tellement ça la question, même pas du tout. Ce qui est en question, c'est qu'il n'y ait pas une seule langue de pure communication, à savoir le globish, le global English, qui, au fond, éradique les langues et les cultures nationales.
En fait, c'est une question de culture.
C'est une question de culture, absolument. Et c'est très important. Moi, j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles contre 2 ennemis. Le premier ennemi, c'était le globish, donc le global English, une seule langue de communication. Et puis, vous pouvez toujours parler français, allemand, italien et anglais dans votre coin, le vrai anglais. Hein. On s'en fiche. On communique en globish. Bon. Et qui n'est pas du tout une langue de culture. Les œuvres anglo-biches, je ne cesse de le répéter, ce sont les dossiers qu'on remplit pour avoir de l'argent à Bruxelles. Bon. Donc, pas ça. Et pas non plus ce que j'ai appelé le nationalisme ontologique, d'un terme un peu barbare, mais qui veut dire qu'un repli sur chaque génie, chaque nation géniale, dans sa propre culture, dans sa propre langue, bien close sur elle-même. Par exemple, et j'appelle ça nationalisme ontologique, c'est un terme philosophique, si vous voulez, par lequel je veux stigmatiser la manière dont Heidegger, le grand philosophe allemand et nazi, mais grand néanmoins, parlait du grec et de l'allemand. C'est-à-dire comme enraciné dans une race et dans un sol. Bien de cela, non, nous ne voulons pas. Donc ni globiche, ni nationalisme ontologique. C'était ça mon idée. Et ça, je pense que l'Europe, elle doit se situer, en effet, entre ces deux dangers.
Et c'est une langue européenne, Barbara Cassin, que vous avez choisi de nous faire entendre. Une langue européenne, mais qui s'est transportée de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine. Vous étiez au Brésil au moment de l'élection de Jair Bolsonaro. Peut-être est-ce parce que vous étiez là-bas que vous avez choisi de nous faire entendre Chico Buarque, pour terminer.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar.
Merci Barbara Cassin, merci de nous avoir fait danser dans ce samedi matin, c'était pas gagné encore. Il est 7h40 sur France Culture, on se quitte, je rappelle juste le titre de ce dernier ouvrage, « Quand dire, c'est vraiment faire », Homer, Gorgias et le peuple arc-en-ciel, voilà les trois âges du performatif. Aux éditions Fayard, un grand merci d'être venu et je vous offre « Mes mots sauvages » de Geneviève Brézac, dont j'ai lu un court extrait de la préface. Merci encore d'être venu, il est 7h40 sur France Culture. Tout de suite, c'est la fabrique médiatique.